18h, vous écoutez France Culture, le journal avec Aurélie Kiefer. Bonsoir chère Aurélie.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. C'est injuste, déclare Jacob Zuma. Je n'ai rien fait de mal. Le président sud-africain résiste pour l'instant à la pression de son parti qui lui a ordonné de démissionner. Après les accusations de viol qui déstabilisent, Oxfam, Médecins sans frontières, reconnaît avoir été confronté à 24 cas de harcèlement ou d'abus sexuels au sein de l'ONG l'an dernier. Les investigations internes ont conduit à 19 licenciements. La réforme du bac se précise. 4 épreuves écrites, un grand oral, le contrôle continu qui comptera pour 40 de la moyenne. Les séries du bac général vont être réorganisées. Nous ferons le point avec Maëwen Bordron. Sur le futur service national universel, on aura des précisions en avril, mais un rapport parlementaire vient d'être présenté pour alimenter la réflexion de l'Élysée. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma s'est offert un dernier tour de piste sans annoncer sa démission. Le chef de l'État n'a plus le choix. S'il ne remet pas sa démission d'ici ce soir, les députés de l'ANC voteront dès demain une motion de défiance contre lui au Parlement. Et elle devrait être adoptée très facilement grâce à la majorité absolue du parti. C'est Cyril Ramaphosa, le vice-président du pays, élu chef de l'ANC il y a 2 mois, qui doit lui succéder. Pourtant, fidèle à sa réputation, Jacob Zuma a choisi de défier une dernière fois ses camarades de l'ANC en accord dans une interview informelle à la télévision publique sud-africaine dans l'après-midi. Le récit de Lisa Fabian à Johannesburg.
Jacob Zuma a pris tout le monde de court en convoquant la télévision publique pour donner sa version des faits. Assis chez lui dans un fauteuil, sans costume ni cravate, le président sud-africain a réglé ses comptes en direct. Jacob Zuma assure qu'il n'a jamais défié l'ANC. Il estime que son rappel est injuste et sans fondement.
Lors des discussions avec le comité exécutif de l'ANC, personne ne m'a jamais donné un motif pour me rappeler. Personne ne m'a dit ce que j'avais fait de mal. Ce n'est pas la règle de l'ANC de rappeler le président en exercice aussitôt que le nouveau chef du parti est élu, comme s'il fallait un changement de pouvoir immédiat. Ça n'existe pas.
En le rappelant un an avant la fin de son mandat, Cyril Ramaphosa et les cadres de l'ANC risquent de précipiter le parti et le pays tout entier dans la crise, selon lui.
Je n'ai pas refusé de démissionner, mais je ne suis pas d'accord avec le délai qui est imposé. Comme je l'ai dit, je devrais démissionner après juin. Ce pays a des relations avec beaucoup de pays et d'organisations internationales. Ce délai favoriserait la transition, pas qu'au niveau national, mais aussi au niveau international.
Le président a conclu en promettant un communiqué plus tard dans la journée.
En Israël, Benjamin Netanyahou balaie les appels à la démission. Le chef du gouvernement garde pour l'instant le soutien de sa coalition gouvernementale et il fait mine d'ignorer les conclusions sévères de 2 enquêtes policières préconisant son inculpation pour corruption, fraude et abus de confiance. Nous allons continuer à travailler ensemble pour le bien de nos concitoyens israéliens jusqu'à la fin du mandat, affirme Benjamin Netanyahou. Alors, cette sérénité affichée correspond-elle à la réalité ? L'analyse d'Étienne Monin à Jérusalem.
Avec sa stratégie, le Premier ministre achète du temps, mais il n'échappera pas à l'échéance judiciaire d'ici quelques mois avec la décision du procureur général. En cas de mise en examen, la coalition de Benjamin Netanyahou menacerait de s'effondrer. Il serait alors directement touché sur le plan politique comme d'autres hauts dirigeants israéliens avant lui. Pour l'instant, les cadres du Likoud ont serré les rangs. Le chef du Parti national religieux a porté son précieux soutien. La police et une partie de l'opposition est accusée par le Premier ministre en personne de chercher à faire tomber l'homme au travers d'un complot, faute de pouvoir l'atteindre dans les urnes. Incontestablement, la carrure de Benjamin Netanyahou dépasse les autres en Israël. L'opinion publique suit le feuilleton de ses affaires depuis des mois avec une forme de fatalisme, même si l'opposition en a fait un thème de plus en plus mobilisateur. La manifestation de samedi à Tel Aviv aura valeur d'indicateur sur sa capacité à capitaliser. En attendant, le Premier ministre dirige par gros temps à un moment où les Américains promettent un plan de paix, où l'Iran se fait menaçant en Syrie, des dossiers sur lesquels il est déjà très en pointe.
Étienne Monin, correspondant de France Culture à Jérusalem. Le gouvernement britannique précise sa conception du Brexit. Plusieurs ministres, dont Theresa May, doivent exposer leur vision des futures relations avec l'Union européenne dans les jours qui viennent. Boris Johnson était le premier à s'exprimer aujourd'hui. aujourd'hui. Le succès du Brexit dépendra de ce que nous en ferons, explique le ministre des Affaires étrangères. Et ensemble, nous en ferons un succès. Boris Johnson adresse au passage de nombreuses critiques à l'Union européenne, estimant que l'objectif de créer un État européen global ne correspond pas à l'ambition du Royaume-Uni et son désir légitime d'autonomie gouvernementale. Il faut dire que le Brexit n'a pour le moment pas que des inconvénients. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Aurélie.
Cette année, les salaires au Royaume-Uni devraient connaître leur plus forte hausse en 10 ans.
Oui, la croissance salariale était restée très modérée, voire molle, très molle, outre-manche depuis la crise financière. Et cette année, les entreprises proposent des hausses salariales excédant les 3%, les plus élevées depuis 2008. Les hausses de salaire les plus importantes concerneraient les activités de service à la clientèle, là où sont concentrés les plus larges effectifs payés au salaire minimum et les jobs sans qualification. D'ailleurs, le salaire horaire minimum pour les plus de 25 ans doit augmenter en avril de plus de 4%, et celui pour les moins de 25 ans doit augmenter, lui, de plus de 5%. Les cadres seront un peu moins bien lotis avec des hausses de 2%. Certes, l'inflation a augmenté, elle atteignait en fin d'année son niveau le plus élevé en plus de 5 ans. C'est dû évidemment à la baisse de la livre consécutive au Brexit qui a poussé à la hausse les prix à l'importation. Mais il y a aussi un phénomène dont on parle un peu moins, celui d'une part du taux de chômage qui reste à son plus bas depuis 1975 et de la baisse d'autre part que l'on observe en Grande-Bretagne depuis le Brexit, du nombre des travailleurs ressortissants de l'Union européenne qui sont soit partis ou soit qui ont été découragés, qui ne sont pas venus à alimenter l'énorme bataillon de travailleurs, étudiants et étrangers, créant donc une tension sur le marché de l'emploi, une tension qui crée un petit effet levier aujourd'hui pour les salaires.
Annabelle Grelier. Le scandale qui ébranle l'association humanitaire Oxfam incite les autres ONG à faire, elles aussi, le point sur leurs pratiques. Soit pour montrer qu'elles sont irréprochables, soit pour anticiper d'éventuelles mises en cause et montrer leurs efforts de transparence. Bonsoir Valérie Crovard.
Bonsoir.
Médecins sans frontières annonce cet après-midi que 24 cas de harcèlement ou d'abus sexuels ont visé des employés de l'ONG l'année dernière. L'organisation précise que sur ces 24 cas, 19 personnes ont été licenciées.
Dans un très long communiqué, MSF détaille ces chiffres. Sur les 40 000 employés permanents que compte l'ONG, 146 plaintes ou alertes ont été reçues par le siège. Ces plaintes et alertes allaient de l'abus de pouvoir à la discrimination en passant par le harcèlement ou d'autres formes de comportement qualifiés d'inappropriés. Sur ces 146 plaintes, 24 ont été identifiées comme étant des cas de harcèlement ou d'abus sexuels après qu'une enquête interne a été conduite. Des procédures sont en place pour encourager la détection de toute mauvaise conduite, explique le communiqué. Les victimes et les témoins qui vivent au sein des communautés où MSF intervient sont encouragés à signaler les comportements qu'ils jugeraient déviants. Un paragraphe peut surprendre. Il est dit que MSF est consciente que les abus en son sein sont sous-rapportés. Les explications données à ce sous-signalement vont de la peur de ne pas être cru au stigmate associé à l'abus, mais aussi à la crainte de représailles, ce qui est très fréquent parmi les populations fragilisées, en particulier dans les zones de conflit où les mécanismes de protection des victimes sont absents. Des aveux qui plaident pour un renforcement des procédures de contrôle et de signalement souhaités par l'organisation qui a pris les devants en jouant la transparence.
Valérie Crovard. Le ciel s'assombrit encore un peu plus pour Gérald Darmanin. Déjà visé par une enquête pour viol, le ministre de l'Action et des Comptes Publics fait l'objet d'une nouvelle enquête, cette fois pour abus de faiblesse. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire et la plaignante a été auditionnée par la police judiciaire. Ce soir, le Premier ministre Édouard Philippe appelle à laisser la justice travailler en toute indépendance et à respecter les droits de chacun, la parole du plaignant comme la présomption d'innocence. C'est le ministre de l'Éducation le plus populaire depuis 15 ans, selon un sondage au Doxa Denso Consulting pour France Info présenté ce soir. 62% des Français ont une bonne opinion de Jean-Michel Blanquer. Saura-t-il réformer le bac sans perdre cette popularité? On devrait le savoir rapidement. Bonsoir Mayouen Bordron.
Bonsoir Aurélie.
Le ministre de l'Éducation nationale a apporté aujourd'hui des précisions sur son projet de réforme concernant l'épreuve du baccalauréat elle-même. Pas de grande surprise.
Non, comme prévu, il consistera en 4 épreuves. Les deux premières auront lieu début mai. Elles porteront sur les disciplines de spécialité choisies par l'élève. Ensuite, au mois de juin, tous les bacheliers auront une épreuve de philosophie, puis un grand oral de 20 minutes sur un projet préparé depuis la première. Problème, tous les lycéens ne sont pas dotés des mêmes compétences à l'oral. C'est ce que dénonçaient certains syndicats enseignants. Pour le ministre de l'Éducation, il s'agit justement, à travers cette épreuve, de compenser les inégalités sociales, puisqu'après le bac, tous les élèves seront, selon lui, à même de s'exprimer à l'oral. Au total, ces quatre épreuves compteront pour 60% de la moyenne du bac. Les 40% restants reposeront sur du contrôle continu, dont 30% d'épreuves ponctuelles en classe de première et terminale. Pour les derniers 10%, ce sont les bulletins de notes qui seront pris en compte.
Et alors, ces changements s'accompagneront nécessairement d'une refonte du lycée. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation en a esquissé quelques lignes tout à l'heure.
On savait que les séries L, ES et S allaient disparaître. C'est donc officiel. À partir de la première, les élèves auront un tronc commun de 7 matières avec une nouveauté, humanité, scientifique et numérique. S'ajouteront ensuite des spécialités, 3 pour les élèves de première et 2 pour les terminales. Rien de nouveau de ce côté, si ce n'est l'intitulé de certaines matières comme écologie, agronomie et territoire. Par contre, ce qu'a révélé le ministre de l'Éducation cet après-midi, c'est que les spécialités allaient varier en fonction des établissements. Impossible, selon Jean-Michel Blanquer, de mettre en place dans chaque lycée 30 doublettes, comme il les appelle, ces combinaisons de spécialités choisies par les élèves.
Chaque lycée aura une petite marge de liberté pour créer la doublette qu'on ne trouve pas ailleurs, en quelque sorte. Et les lycées les plus défavorisés auront les moyens d'organiser encore une doublette supplémentaire qui permettra de créer cette attractivité. Je prends un exemple qu'on trouve dans le rapport Mathiot quand il parle de doublette d'établissement. Il donne l'exemple de art et informatique. C'est un bon exemple. On ne va pas mettre art et informatique dans tous les lycées de France en terminale comme doublette possible pour des questions organisationnelles. Par contre, ça existera dans certains lycées et dans notre gestion académie par académie. Et nous veillerons à les implanter dans des lycées qui ont besoin de renforcer leur attractivité, ce qui permettra d'accentuer, d'améliorer la mixité sociale.
Autre information, les élèves pourront changer de spécialité entre la première et la terminale en concertation bien sûr avec le corps enseignant et le chef d'établissement.
Le ministre de l'Éducation va saisir le Conseil supérieur des programmes à la fin du mois. Le CSP doit revoir l'ensemble des matières pour qu'elles soient conformes au bac réformé. Merci Maïwenn Bordron. Et puis, un autre bac est-il souhaitable? C'est la question posée ce soir par Hervé Gardette à ses invités dans Du grain à moudre. L'autre nouveauté qui se profile pour la jeunesse française, c'est le projet de service national universel. Alors sera-t-il plutôt militaire ou civique ou un peu des deux? On est encore dans le flou. Hier soir, Emmanuel Macron a clarifié un point. Ce service devrait comporter une partie obligatoire de 3 à 6 mois. Mais ce matin, un rapport parlementaire a fait une proposition qui semble très en deçà des ambitions du chef de l'État. Ce rapport, présenté devant la commission défense de l'Assemblée, suggère un parcours de citoyenneté au cours duquel l'expérience de vie collective se limiterait à une semaine, Anne Fauquemberg.
Oui, cette semaine où la jeunesse de France, je cite le rapport, serait mélangée, eh bien c'est la phase 2 de ce parcours de citoyenneté. Elle est prévue à l'âge de 16 ans, semaine obligatoire considérée comme un rite de passage pour les adolescents. Alors pour la déclinaison, deux propositions sont sur la table. Celle de Marianne Dubois du parti Les Républicains, l'une des deux co-rapporteuses. Elle penche pour une semaine en immersion dans le monde associatif. Et puis, Émilie Guérel du parti LREM propose une semaine en internat pendant les vacances scolaires. Une expérience plus forte, selon elle, en termes de mixité sociale pour la classe d'âge.
Cette semaine en immersion en internat, elle s'inscrit véritablement dans un parcours. Il n'y a pas qu'une semaine. Elle s'inscrit dans un parcours, en fait, qui s'inscrit dans la longue durée. Parce que, si vous voulez, avec la première phase, en fait, qui s'inscrit, elle, dans le cadre scolaire, il y a 4 semaines en tout, puisque nous préconisons qu'il y ait une semaine de la défense et de la citoyenneté qui reviennent tous les ans. Donc ça fait 4 semaines de la 6e à la 3e, plus 7 semaines en internat. Ça fait en tout 5 semaines étalées sur plusieurs années.
Voilà donc pour la justification en termes de cohérence de ce parcours année après année, destiné à renforcer donc le sentiment d'appartenance à un collectif national. Mais les deux députés le reconnaissent, cette construction, elle découle de préconisations budgétaires réalistes, précise la députée Guérel. Un rapport dont le montant doit encore être évalué par Bercy. Il se trouve actuellement sur le bureau du ministère des Armées. Et à minima, il devrait permettre de nourrir le débat public sur ce sujet concernant entre 600 000 et 800 000 adolescents devraient entrer dans ce parcours citoyen chaque année.
Merci Anne Fauquemberg. Et puis donc je rappelle qu'un groupe de travail mis en place par l'Élysée doit rendre ses conclusions fin avril. Le réseau Sortir du nucléaire s'enflamme après les propos d'Emmanuel Macron sur l'éventuelle construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Il n'y a pas de tabou sur cette question, a déclaré hier soir le chef de l'État lors d'une rencontre avec la presse présidentielle. J'attends d'abord les délais finalisés pour l'EPR de Flamanville et les analyses de l'autorité de sûreté nucléaire. Aucune option ne doit être aujourd'hui a priori exclue. Alors, cette position présidentielle n'est pas surprenante aux yeux de Charlotte Mijon du réseau Sortir du nucléaire, mais pour elle, elle est inquiétante.
Et ce n'est pas parce que ce n'est pas surprenant que ce n'est pas choquant. Dire qu'il n'y a pas de tabou sur l'ouverture de nouveaux réacteurs, c'est complètement méconnaître l'état actuel du parc, les difficultés actuelles de la filière nucléaire. On voit bien actuellement les problèmes énormes qu'il y a sur le chantier de l'EPR de Flamanville, dont il faut quand même rappeler qu'il a un retard énorme, que les coûts ont triplé. On voit que le problème des déchets radioactifs se pose de manière de plus en plus lourde et il devient de plus en plus évident qu'il n'y aura pas de solution pour la gestion de ces déchets. On voit que EDF et Orano sont dans une situation financière complètement catastrophique. À partir de là, envisager un nouveau réacteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire imposer une nouvelle installation nucléaire à des populations qui n'en veulent pas. Ça veut dire engager encore des milliards d'argent public, tout ça pour sauver une filière qui est à bout de souffle et qui est maintenue seulement à bout de bras pour l'empêcher d'être en faillite. À l'heure où ce que souhaite tout le monde, c'est une transition énergétique digne de ce nom, et alors même que Emmanuel Macron a été élu sur une promesse de réduction de la part du nucléaire, c'est envisager d'engager la France dans un nouveau bourbier et c'est complètement inacceptable.
Propos recueillis par Véronique Rebérotte. Les négociations sur la formation professionnelle se poursuivent. Patronat et syndicats se sont une nouvelle fois réunis aujourd'hui au siège du MEDEF. Ils ont jusqu'à la fin de la semaine pour parvenir à un accord. Catherine Pétillon.
Oui, l'essentiel de la journée d'aujourd'hui a permis aux partenaires sociaux de rebalayer l'ensemble des mesures prévues pour améliorer la formation professionnelle. Avant d'aborder en toute fin d'après-midi la question de son financement. Or, s'il y a un relatif consensus sur la nécessité de mettre à plat son système complexe, les discussions restent serrées non seulement sur les sommes, mais surtout sur leur répartition. Sur le fond, les ambitions en matière de formation et d'accompagnement sont grandes, à la satisfaction de tout le monde autour de la table, mais pour les syndicats, manque l'assurance de les rendre réalistes, car les montants pour les financer s'annoncent un peu réduits. Le principe, lui, ne change pas. La formation reste financé par des contributions prélevées auprès des entreprises, mais l'objectif est d'en simplifier les modalités. L'enjeu principal, c'est où va l'argent de la formation. Car il y a beaucoup de choses à financer. En premier lieu, le compte personnel de formation, nouvelle version. Il est censé devenir le réceptacle unique des droits de formation des salariés, en plus ambitieux, puisque l'accord prévoit de l'alimenter avec 33 heures de formation par an au lieu de 24, et avec un plafond porté de 150 à 400 heures, autant d'heures à financer. Donc, à cela s'ajoute l'apprentissage, financé par une contribution unique, et l'on sait déjà qu'elle représentera près de la moitié des sommes collectées auprès des entreprises. Enfin, pour financer la formation des chômeurs, est envisagé un prélèvement autour des 0,3% de leur masse salariale. Les partenaires sociaux n'ont discuté qu'une demi-heure de cette répartition. Aujourd'hui, ils reprendront vendredi. Côté syndicat comme du patronat, on semble plutôt serein sur un futur accord. En revanche, moins d'optimisme pour l'assurance chômage. Ces mêmes partenaires se retrouveront demain pour en discuter.
Catherine Pétillon. Jawad Ben Daoud, surnommé le logeur de Daesh, est finalement relaxé. Il encourait jusqu'à 6 ans de prison pour recel de malfaiteurs terroristes pour avoir hébergé 2 membres des commandos djihadistes des attentats du 13 novembre 2015. Ces 2 co-prévenus, en revanche, sont condamnés à de la prison. 4 ans, dont 1 avec sursis pour Youssef Haït Boulassen, déclaré coupable de non-dénonciation de crimes terroristes. Et 5 ans pour Mohamed Souma, qui avait joué le rôle d'intermédiaire. On retrouve Florence Turm au Palais de Justice de Paris.
Il n'est pas prouvé que Jawad Ben Daoud a fourni un hébergement à des individus qu'il savait être des terroristes. La présidente du tribunal, Isabelle Prévost-Després, termine la lecture du jugement. Elle a pointé les explications fantaisistes, cette médiatisation démesurée, perdant de vue votre défense, dit-elle, mais aussi la constance des déclarations du prévenu. Jawad Ben Daoud hoche la tête à plusieurs reprises et la décision tombe, relaxée. Il s'effondre d'abord dans son box, embrasse la tête de l'un de ses avocats, la main de l'autre. Il pourrait sortir dès ce soir de Fleury-Mérogis. Mais à concentrer ce procès sur celui que l'on avait baptisé le logeur des terroristes du 13 novembre, on avait presque oublié les 2 autres prévenus dont l'audience a fait ressortir le rôle prépondérant. Mohamed Souma, celui qui a joué les intermédiaires, vous ne pouvez pas ignorer que les 2 hommes étaient les terroristes du 13 novembre. Isabelle Prévost-Després marque une pause et même, vous le saviez. Mohamed Souma secoue la tête en signe de dénégation et seule une peine d'emprisonnement ferme est adaptée à la gravité des faits, conclut la magistrate. 5 ans d'emprisonnement ferme donc, et une motivation judiciaire identique pour le troisième homme, Youssef Haïd Boulassen, le frère d'Asna, tué dans l'assaut du raid et qui comparaissait libre à l'audience. Lui écoute, visage fermé, bras croisés sur la poitrine. La présidente souligne sa mauvaise foi, des mensonges constants, une radicalisation certaine. Elle détache les mots. Ayant connaissance d'une entreprise terroriste, vous avez choisi volontairement de ne pas informer la police. 3 ans de prison ferme et 1 an avec sursis, mais le tribunal n'a pas ordonné son incarcération immédiate, comme l'avait demandé le procureur.
Florence Turm au tribunal correctionnel de Paris. Des passages pluvieux demain dans la plupart des régions, avec de la neige près des frontières du Nord et vers le Massif central. Le temps sera sec sur le sud de l'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et sur le pourtour méditerranéen. Les gelées matinales seront concentrées sur le Nord-Est. Les maximales seront en hausse, 6 à 18 degrés du Nord au Sud, jusqu'à 18 dans le Sud-Ouest. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.